Voilà, France Inter, il est exactement 14h, passé de près de 3 minutes. Il est l'heure de retrouver 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet.
Merci Nicolas Willems et bonjour à tous. Aujourd'hui, une histoire de la rumeur.
Ah, la calomnie, monsieur. Qui diable y résisterait? Beaumarchais, le barbier de Séville.
D'histoire. Le Pentagone, victime le 11 septembre d'un complot de l'armée américaine, le gouvernement Jospin, responsable des crues de la Somme, Isabelle Adjani, malade du sida, ou encore des jeunes femmes qui auraient disparu dans des arrière-boutiques d'Orléans en 1969. Aussi farfelues soient-elles, qu'on les démente ou qu'on les ignore, les rumeurs ont la vie dure. D'où viennent-elles? Comment se propagent-elles? Et comment peut-on les éteindre? Depuis un siècle qu'on se pose ces questions, personne encore n'a su y répondre. Et les rumeurs continuent d'alimenter les fantasmes, comme elles le faisaient naguère quand elles trouvaient des boucs émissaires pour expliquer toutes les grandes calamités de l'histoire.
Qu'est-ce qu'ils ont assommé comme ça?
C'est pour appeler le docteur. Il est parti faire sa tournée, mais nous, depuis ce matin, on a au moins 5 malades dans le village. C'est à cause de l'eau, elle a tourné dans les puits. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est le choléra, mon vieux, le barbus asiatique.
Comment ça se fait? Ça aille si vite.
C'est la faute des tanneurs, des curés et des juifs. Ah, le choléra est une saloperie, mais le reste est une saloperie encore pire.
C'est...
Je sais, les empoisonneurs de Fontaine, vous êtes le troisième depuis hier. Ça les occupe.
L'empoisonneur!
Qu'est-ce que t'as mis dans l'eau, fouille-le?
Brûlez ton poison!
Regarde le sac, c'est là qu'il a pris!
Pascal Froissart, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 8, spécialiste des sciences de l'information et de la communication et auteur d'un livre, La rumeur, histoire et fantasme, qui vient d'être publié chez Belin. Un livre plutôt pessimiste puisque vous affirmez que quoi qu'on fasse, malgré le travail de quelques scientifiques qui depuis le XXe siècle travaillent sur les mécanismes de la rumeur, eh bien que tout ça ne sert à rien, que ces spécialistes sont un peu, dites-vous, des charlatans et que des rumeurs, il y en aura toujours.
Oui, il y en aura toujours, mais ça, ce n'est peut-être pas seulement un angle pessimiste, c'est peut-être aussi un angle très optimiste. Après tout, ce sont d'excellents scénarios et une très bonne manière de se faire peur.
C'est bien pour les auteurs de science-fiction, mais c'est pas forcément bien pour les victimes des rumeurs.
Pour les victimes des rumeurs, certes non, il y en a peu. Et il faudrait se garder justement d'en faire des espèces de symboles de la société. Ce ne sont que, heureusement, des victimes très rares, des cas très marginaux. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans des théories sur la rumeur, on fait de ces victimes-là le centre du phénomène social, alors que finalement, non, la société se porte très bien, il y a autant de rumeurs positives que négatives qui circulent, alors on les appelle peut-être pas toujours des rumeurs, on appelle ça quelquefois des légendes urbaines, des légendes contemporaines, on appelle ça des anecdotes, des canulars, mais non, je crois pas qu'il y a raison d'être seulement pessimiste.
Alors Pascal Froissart, non seulement vous dites que les rumeurs, il y en aura toujours, autant qu'il y aura des sociétés humaines, mais vous dites même qu'elles prennent aujourd'hui des proportions beaucoup plus grande qu'autrefois à cause des médias qui sont non pas à l'origine des rumeurs, on le verra, mais plutôt des caisses de résonance. C'est quand même assez extraordinaire le rôle des médias dans les rumeurs. Ils ne font que reprendre ce qui se dit. Voilà. Et encore, souvent avec scepticisme.
Oui, on estime toujours que la rumeur est de l'ordre de l'oral et de l'oralité, du bouche à oreille, de l'intime. Il y a quelque chose là qui est intéressant à questionner, parce que en fait, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on parle de rumeur, de près ou de loin, on touche aux médias. De près ou de loin, les médias sont dans le coup, d'une certaine manière. Alors, c'est souvent à leur corps défendant, et tout de même, c'est-à-dire les journalistes n'ont pas pour métier de diffuser les rumeurs, et donc ils ne le font pas volontairement. En revanche, ils le font lorsque, un petit peu comme aujourd'hui, nous allons parler de rumeurs et malgré nous, nous allons les diffuser en toute bonne foi, finalement.
Oui, mais justement, bon, vous parlez par exemple de Thierry Messant au début de votre livre et de cette fameuse rumeur des avions du Pentagone qui n'aurait pas, il y aurait pas eu d'avion, il y aurait eu un complot des Américains. Ça a connu un succès considérable et vous dites que ce succès est dû aux médias.
dû aux médias. Vous êtes méchant avec moi.
Vous qui êtes méchant avec les médias.
je dis que Thierry Messin est un artiste, un orfèvre de l'art de mettre en marché son produit, qui est un produit d'excellente qualité finalement. C'est un très bon polar qu'on lit comme on lirait, une bonne série noire, quelque chose comme ça. Ce qui m'a fort impressionné, c'est pour ça que j'en parle donc effectivement en ouverture du livre, c'est que ce sont les médias qui ont fait la publicité gratuite de cet ouvrage en le surtitrant rumeur, alors que pour moi il me paraît être d'abord et avant tout une prose paranoïaque ou complot, à la base avec une théorie du complot sur laquelle d'ailleurs je peux pas me prononcer, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, et il me semble juste que les médias en ont fait leur chou gras et donc ont donné une notoriété, une publicité à cet ouvrage là qui aurait
oui, mais Pascal Froissart, comment peut-on ne pas en parler? Par exemple, on fait une émission sur la rumeur aujourd'hui. On parle de Thierry Messant. Vous-même, dans votre livre, vous parlez de Thierry Messant, pas longuement, hein. C'est pas un cas suffisamment intéressant pour vous en parler, mais vous en parlez. Donc, et on peut dire que vous-même, vous êtes responsable, au fond, de sa notoriété.
C'est un dilemme absolument terrible. Le seul moyen qu'on a de ne pas parler d'une rumeur, c'est de ne pas en parler. Alors, par conséquent, à partir du moment où vous traitez du problème, on est obligé d'être diffusé. Alors, il y a peut-être un seul moyen que je vois pour parler d'une rumeur sans la diffuser, c'est de la parodier. Mais pour ça, c'est une chose assez difficile, en ce sens qu'il faut réussir à trouver une parodie, quelque chose de drôle, qui ne s'adressera qu'à ceux qui la connaissent déjà.
Est-ce que le responsable de la propagation d'une rumeur, c'est pas aussi le public? Le bouquin de Messant a connu un succès absolument insensé, hein, alors que tout le monde disait, les médias disaient, que c'était l'œuvre d'un mythomane. Est-ce que c'est pas, au fond, la rumeur, c'est pas ce qu'attend le public, hein, qui aime, c'est vrai, les complots, comme on aime bien le polar, sauf qu'on fait pas la différence entre les deux.
Voilà, le succès des rumeurs équivaut très, très nettement au succès que peuvent avoir des films d'horreur ou des films, je ne sais pas, qui font peur. Actuellement, je ne sais pas, même les films là de Noël sont des films dans lesquels il y a une violence et une implication des spectateurs terrible. Alors on paye 8 euros pour aller voir ces films-là, pour voir une rumeur ou pour entendre une rumeur, on paye rien du tout, mais on a aussi peur. Et en revanche, je ne crois pas qu'il faille aller au-delà de cet aspect-là. C'est aussi l'attrait du public, mais dont je suis, pour ces bonnes histoires-là qui expliquent leur diffusion. On aime se faire peur, on aime rire, on aime pleurer, et on ne croit pas toujours aux histoires de morts-vivants quand on les voit ou quand on les écoute dans les rumeurs.
Et on aime bien donc colporter les rumeurs.
Je vis dans une ville de province, à 6 km de Caen, et là tout le monde en pince pour faire des petits cancans. Ainsi la semaine dernière, au lavoir, la grande Élise a dit qu'on avait volé la grosse cloche de l'église. Pensez si ça fit parler. Pépin, le marchand de galoches, a dit que c'était le bedeau qui avait barboté la cloche pour la mettre après son vélo. Le pharmacien l'a dit à la bouchère, et la bouchère l'a dit au cantonnier. Le cantonnier l'a dit à monsieur le maire, et monsieur le maire l'a dit au charcutier. Le charcutier l'a dit au chef de gare, le chef de gare l'a dit au père Camus. Le père Camus l'a dit à la pantare, et c'est comme ça que tout le pays l'a su. Si dans cette petite ville, l'un de vous passe par hasard, à pied, en automobile, à cheval ou en sidecar, prenez bien garde à tout le monde, car si vous faites ci ou ça, à quatre lieues à la ronde, on le répète, on le répète, on le répétera. Le pharmacien dira à la bouchère, et la bouchère le dira au cantonnier. Le cantonnier le dira à monsieur le maire, et monsieur le maire le dira au charcutier. Le charcutier le dira au chef de gare, le chef de gare le dira au père Thomas. Le père Thomas le dira à la fanfare, et le lendemain tout le pays le saura.
France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui la rumeur.
Et une chanson de 1932, Alibert, tout le pays l'a su. Alors c'est comme ça que circulent les rumeurs, Pascal Froissart, avant les médias, le bouche à oreille. Ça a même été théorisé par le premier chercheur à avoir travaillé sur la rumeur en 1902, il y a 100 ans pile, hein, le premier rumorologue, j'ignorais totalement l'existence de cette profession, et qui s'appelait Stern.
Stern est en effet le premier scientifique à avoir fait des théories sur la rumeur. Et auparavant, la rumeur existait sur sûrement, sous d'autres noms, probablement. Mais Stern, psychologue allemand, assez inconnu parce qu'il n'a pas laissé son nom. Enfin, si, il a travaillé sur le quotient, le QI, le quotient intellectuel. Il a travaillé aussi sur la psychologie du témoignage. Mais s'il est l'inventeur, d'une certaine manière, des premières théories sur la rumeur, c'est de manière incidente, de manière anecdotique. Pour lui, il n'a pas travaillé là-dessus longtemps.
Ce qu'il fait, en gros, c'est qu'il constate qu'en donnant une information à quelqu'un, au fur et à mesure, c'est pas une grosse invention d'ailleurs, mais enfin, au fur et à mesure qu'elle se transmet de bouche à oreille, elle est totalement déformée pour devenir quasiment le contraire de ce qu'elle était initialement.
Exactement. Son grand mérite, c'est d'avoir, ou son grand tort d'ailleurs, c'est d'avoir théorisé et mathématisé surtout ce processus-là. Il a pris le fameux jeu de colonie de vacances qu'on connaît tous, qui est le jeu du téléphone, ou ce qu'on a appelé par après le téléphone arabe, de manière un peu erronée, qui consiste simplement à mettre 10 personnes sur une table, le long d'une table, et de faire circuler ce message-là. Stern, lui, a calculé la déperdition de détails d'une personne à une autre tout au long de cette chaîne-là. Le problème est le suivant, c'est qu'il a fait pour ça une des impasses théoriques terribles. En gros, il a pris 10 personnes et il les a extraits du monde social. Il leur a imposé un sujet, il leur a imposé une méthodologie. Et finalement, donc, sa théorie ne marche bien qu'à un endroit dans l'univers, c'est son laboratoire. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, sa théorie ensuite a été reprise par tous les autres théoriciens de la rumeur qui en ont fait l'espèce de théorie princeps, une matrice théorique en disant « Ah ben voilà, ça y est, nous avons enfin le modèle théorique de la rumeur ». Il y a là quelque chose d'ailleurs de tout à fait intéressant à étudier.
Les autres, vous les citez d'ailleurs, Rosa Oppenheim qui était une de ses collaboratrices, Clifford Kirkpatrick qui a calculé la dégradation de l'information pendant qu'elle circule, deux Américains aussi, Gordon Allport et Leo Postman, qui ont, dites-vous, pendant la guerre, créé même des espèces de centres anti-rumeurs aux États-Unis pour contrer la propagande allemande.
Oui, c'est étonnant. Pendant la guerre et ensuite pendant les émeutes intercommunautaires aux États-Unis, il y a eu à ces deux reprises-là dans l'histoire américaine des institutions qui ont été créées de toutes pièces et qui portaient le nom de rumeurs. Alors pendant la guerre, c'était des dispensaires de rumeurs, des rumor clinics. Je ne sais pas comment exactement le traduire. Et dans les années 70, c'était des centres de contrôle de la rumeur. Et dans les deux cas, il s'agissait, c'est ça, de faire apparaître des universitaires, des notables en tête d'affiche pour invalider les rumeurs qui circulaient dans la société. Dans les deux cas, on n'a pas les moyens de vérifier l'effet de ces dispositifs anti-rumeurs.
Et dans tous les cas, dites-vous, la science de la rumeur est aussi farfelue que l'objet dont elle traite. Pourquoi ?
Je suis un peu méchant là.
Oui, là vous êtes dur parce qu'ils ont quand même travaillé dessus.
Ils ont travaillé, certes, et je crois qu'effectivement on ne peut pas leur reprocher d'avoir essayé de se battre contre ces rumeurs-là. Là où on peut leur en vouloir un peu, c'est d'avoir servi de paravent à l'information officielle. En particulier dans justement ce deuxième dispositif, là, les centres de contrôle de la rumeur, on s'aperçoit très rapidement que les gens appelaient les centres de contrôle de la rumeur de bonne foi en disant alors est-ce qu'il y a une émeute, est-ce que je peux sortir, est-ce que je peux envoyer mon fils à l'école ou tout ça. Et les standardistes du centre de contrôle de la rumeur, pour leur répondre, téléphonaient d'abord à la police pour donner ensuite leur répercuter cette information policière. Pour moi, là, il y a une sorte d'imposture scientifique au sens où la science n'a pas à être le paravent de la police ou d'une information policière, quelle que soit sa qualité.
Alors ça, c'était dans les années 60, à une époque où un sociologue français s'intéressait à son tour au mécanisme de la rumeur à propos d'une affaire devenue célèbre, la rumeur d'Orléans en 1969, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, la rumeur d'Orléans est connue parce qu'elle a fait donc l'objet d'un livre du sociologue Edgar Morin, paru dès 1969 au Seuil. En mai 69, écrit donc Edgar Morin dans ce livre, en mai 69 naît, se répand et se déploie à Orléans le bruit qu'un, puis deux, puis six magasins d'habillement féminin du centre de la ville organisent la traite des blanches. Les jeunes filles sont droguées par piqûres dans les salons d'essayage, puis déposées dans les caves, d'où elles sont évacuées de nuit vers des lieux de prostitution exotiques. Les magasins incriminés sont tenus par des commerçants juifs. Donc ça, c'est un extrait d'Edgar Morin. Donc la rumeur prend une telle ampleur que le 30 mai, un de ses commerçants porte plainte. Le lendemain, jour de marché à Orléans, des attroupements se constituent devant les magasins incriminés. Et trois jours plus tard, la presse régionale, qui jusqu'alors n'a pas voulu donner d'importance à ces bruits, réagit alors avec vigueur. Depuis une semaine, écrit la République du Centre, une rumeur faisant état d'incidents où le rocambolesque se mêle à l'immoral circule à Orléans. Ce journal parle de bruits sans fondement, s'étonne de l'ampleur exceptionnelle prise par cette campagne. Et y voit, je cite, un acte de malveillance utilisant délibérément la calomnie pour nuire aux commerçants visés. Le même jour, La Nouvelle République, un autre journal d'Orléans, parle d'une odieuse campagne. Il s'agit bien d'une cabale montée sciemment par des gens sans scrupules pour nuire à la moralité de ces commerçants et apporter un grave préjudice à leurs affaires. Et ce journal ajoute, on sent derrière cette cabale un vague relent d'antisémitisme. Dans les jours qui suivent, des associations condamnent à leur tour ces bruits, Amicales de déportés, Parents d'élèves, de certains partis politiques, la LICRA, le MRAP, l'évêque d'Orléans. Et le 7 juin, la presse nationale, et oui, la presse nationale se saisit de cette affaire, des femmes disparaissent, entre guillemets, à Orléans. Canular ou cabale, titre Le Monde, qui se demande, faut-il y voir l'œuvre d'un mauvais plaisant ou bien, comme le soutient le MRAP, l'apparition de corbeaux d'un nouveau genre dont l'action met en cause non pas quelques individus, mais une communauté entière. Et l'aurore du 10 juin 69 voit dans cette affaire une résurgence du Moyen-Âge, ce bon Moyen-Âge. Sous le vernis de la civilisation, écrit l'aurore, le Moyen-Âge est toujours là et il a suffi de presque rien pour le faire ressortir. Ce journal émet deux hypothèses. La cabale d'Orléans a peut-être été lancée par un groupuscule d'extrême droite ou peut-être tout simplement par des lycéennes à l'imagination trop vive qui, se sentant à l'étroit à Orléans, se sont défoulées en créant ce roman exécrable.
Peut-être Pascal Froissart sur ces textes, sur cette affaire d'Orléans d'abord, mais sur cette presse, elle est quand même, qu'elle soit régionale ou nationale, elle s'est plutôt comportée de manière exemplaire. Elle démonte cette espèce de fantasme, de rumeur d'Orléans. On ne peut pas dire là qu'elle ait contribué à l'amplifier, peut-être contribué à l'éteindre au contraire.
Je ne voudrais pas paraître pour un espèce de vilain anti-média. Je ne suis finalement qu'une espèce de commentateur. Ouais. Je constate simplement que dans le cas des rumeurs en général, les médias sont mêlés de près ou de loin au diagnostic qu'on porte sur l'affaire. On a employé là plein de termes qui sont très équivalents. Calomnie, cabale, complot, je ne sais quoi. Dans tous les cas, ce qui m'intéresse moi, c'est de montrer que si à l'intérieur de la ville d'Orléans, il y avait, 10% de la population qui était au courant avant que la presse s'en saisisse, après que la presse s'en est saisie, la presse régionale, nationale, puis le livre de Morin qui lui a donné à ce moment-là une légitimité quasi scientifique, à ce moment-là, cette rumeur-là devient incarnée, elle s'incarne, elle existe en soi, alors qu'auparavant, cela aurait pu rester tout simplement, une espèce de ragot, peut-être pas un ragot de village parce que je n'aime pas l'expression, mais un ragot commercial, comme il en existe des dizaines et des dizaines. Les commerçants sont victimes de ragots, mais comme tout le monde, nous sommes tous victimes de ragots. Mais ce ne sont pas des ragots d'une excessive gravité. Et dans ce cas-là, le fait d'avoir pointé, que les médias aient pointé ce ragot-là parmi d'autres, le fait exister. Alors que si on n'en avait pas parlé dans les médias, peut-être que ça aurait été un des ragots antisémites qui couraient sur ces gens-là.
Il y a quelqu'un qui a porté plainte quand même. C'est donc.
Alors, il n'y avait aucune preuve en plus.
Il y a eu des plaintes de portée.
La presse.
Voilà. Alors c'est ça l'intérêt, c'est que si jamais l'un d'entre nous ici est accusé par l'opinion publique ou la rumeur publique de je ne sais quel mal, nous avons des armes pour nous battre contre la rumeur. Et ces armes-là sont celles que nous connaissons tous, les lois sur la diffamation, sur l'injure.
Oui, peut-être, mais s'il y a un procès, il y a forcément aussi couverture médiatique, on le veuille ou non, on ne peut pas ne pas en parler. En tout cas, ce que vous dites, c'est plus on parle de la rumeur, plus on la nourrit, et c'est ce que vous affirmez en prenant comme exemple une affaire qui avait également fait grand bruit il y a 15 ans, France Inter, le 19 janvier 1987.
Isabelle Adjani avait décidé de venir hier soir en direct devant les caméras d'une télévision pour rassurer les gens. Toute cette mise en scène n'avait qu'un seul but, en finir avec la rumeur d'un sida qui aurait tué l'actrice. Ce bruit ridicule qui court de Marseille à Paris en passant par Montpellier est sans fondement. Le professeur Villet, le président de l'Ordre des médecins, a annoncé un bilan de santé convenable pour Isabelle Adjani, qui s'en est pris ensuite sur TF1 à ceux qui font le malheur des autres en colportant à plaisir la rumeur des autres.
Si vous voulez, ce qui est terrible aujourd'hui pour moi, c'est de devoir venir ici pour dire « je ne suis pas malade », comme si j'avais à dire « je ne suis pas coupable d'un crime ». Alors je pense, oui, que les gens qui ont fait courir ça, qui sont colporteurs de ce genre de rumeurs, pour essayer de détruire la vie ou la carrière de quelqu'un, ont à être trouvés et sanctionnés.
Le problème, Pascal Froissart, c'est que ces gens-là, précisément, on ne les retrouve jamais. La caractéristique de la rumeur, c'est qu'elle est anonyme, c'est que son auteur, on ne le connaît pas.
Oui, ou qu'il n'a pas beaucoup d'importance. En tout cas, dans l'histoire d'Adjani, on n'a jamais retrouvé l'auteur. Mais à nouveau, dans l'histoire d'Adjani, c'est une espèce de scénario classique d'imaginer que les grandes actrices, les grandes de ce monde, ont des maladies cachées, ont des vices cachés, des mœurs cachées, je ne sais quoi. Elles en jouent également. Et il n'y a pas là.
Pas dans le cas d'Adjani, hein, c'est évident.
Des stars en général. Oui. Des stars en général. Mais c'est un métier difficile d'être star. C'est-à-dire qu'il faut réussir à conserver une distance ni trop près ni trop loin des médias, pouvoir en bénéficier pour accéder à ce statut de star et pouvoir aussi vivre une vie d'homme et de femme normale.
Ce qu'Alex Rien d'ailleurs vous le montrez avec des chiffres, c'est que précisément le démenti d'Isabelle Adjani n'a servi à rien. Vous citez un sondage disant que avant l'intervention d'Adjani sur TF1, 15 millions de personnes en France étaient informées de cette rumeur entre guillemets et que après son intervention, 48 millions et demi étaient informés. Quant aux gens qui y croyaient, ils étaient à peu près le même nombre, le même pourcentage, 23% avant qu'elle intervienne, et 27% une fois qu'elle est intervenue, sauf que comme il y avait trois fois plus de personnes au courant, il y a eu trois fois plus de crédules, autrement dit, ça n'a servi à rien et ça a même amplifié, ça c'est vrai, vous le prouvez avec des chiffres, Pascal Froissart.
Alors ça n'a servi à rien, je pense qu'à la place d'Isabelle Adjani, j'estimerais avoir fait tout mon possible. Donc je pense qu'elle a eu raison de le faire, ne fût-ce que pour elle, se dire, bon j'ai tout fait, je ne peux pas faire plus que dire, ben voilà, regardez-moi, je suis vivante. Le problème est que mathématiquement ou sociologiquement parlant, effectivement, on se rend compte que ça a pour effet automatique d'accroître le nombre absolu de gens qui connaissaient pas avant et qui connaissent ensuite la rumeur.
Et de gens qui y croient, hein, calomnier, il en restera toujours quelque chose.
Dans les deux cas, c'est le même. Hein, ouais. Vous avez cité les pourcentages. C'est un quart de la population qui, de toute manière, croit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, il y a un complot derrière, on nous cache quelque chose. Ce qu'il faut éviter, c'est d'augmenter la taille du gâteau sur lequel cette proportion-là s'exerce.
Alors des rumeurs, vous en citez beaucoup, plus ou moins graves, plus ou moins sérieuses. Il y en a qui font sourire, comme la rumeur qui prêtait à Walt Disney l'intention de se faire congeler après sa mort. Qui était entièrement faux, la rumeur des reins volés, ça c'était terrible, des gens qui disparaissaient pour qu'on leur pique leurs organes, la rumeur de Villejuif, les araignées venimeuses qu'on aurait trouvées, des migales qu'on aurait trouvées dans des plants de yucca importés, la mort de Paul McCartney aussi, en laquelle des gens ont cru, je crois qu'il y a même qui croient encore qu'il est vraiment mort et que c'est un sosie qui vit, et puis des rumeurs historiques aussi, le droit de cuissage qui, dites-vous, n'aurait jamais existé, hein. Il y en a des plus graves, il y a par exemple, bien sûr, le révisionnisme, là le négationnisme, il utilise la rumeur en sa faveur pour dire « Oh ben les chambres à gaz, ce n'est simplement qu'une rumeur », afin de discréditer, bien entendu, l'existence ou que l'on ne croit pas en l'existence des chambres à gaz.
Oui, là on aborde un aspect assez terrifiant des théories sur la rumeur, c'est qu'elle donne à ce pan de l'histoire et de l'écriture de l'histoire, et elle donne un argument extrêmement facile, c'est-à-dire en gros les révisionnistes vont prendre l'argument et les théories sur la rumeur pour dire voilà, il existe quelque part une vérité, on nous la cache, ce que on entend sur le nombre de personnes qui sont morts de la Shoah, ce ne sont que des rumeurs et il faut continuer à chercher la vérité. Cette opposition entre vérité et rumeur est extrêmement problématique parce que d'abord elle prétend que la vérité se trouve alors qu'à mon avis elle se cherche et qu'elle se construit et qu'elle est le résultat d'un consensus, le résultat d'une discussion. Et ensuite c'est une opposition qui joue en leur faveur d'une certaine manière puisqu'ils attribuent à la rumeur la fausseté et la vérité à eux évidemment.
Et surtout une volonté délibéré de falsifier l'histoire. En revanche, beaucoup de rumeurs, dites-vous, viennent de gens de bonne foi, comme ce fut le cas il y a quelques mois à peine, à l'occasion des inondations dans la Somme, France Inter, Benoît Colombat, le 9 avril 2001.
France Inter. Aujourd'hui, en visite auprès des victimes des inondations dans la Somme, à Abbeville, le Premier ministre se fait épingler par la population à propos de cette rumeur selon laquelle des cours d'eau auraient été détournés pour épargner Paris. Raison pour laquelle le département de la Somme aurait tout pris, Lionel Jospin aussi.
Tous les deux mètres, la rumeur du délestage d'eau revient violemment à la figure de Lionel Jospin.
Qu'est-ce que vous pouvez me donner à moi comme explication?
Une pluie qui est tombée, qui est trois fois plus que la moyenne habituelle.
Non, on a toujours des pluies torrentielles, on en a toujours.
Pas sur la même durée.
J'habite ici, depuis ma naissance, je sais les conditions atmosphériques, je n'ai jamais vu ça.
Qui voulez-vous qui ait la possibilité à Paris de décider de déverser de l'eau?
Monsieur Jospin, vous nous prenez vraiment pour des imbéciles?
Non, certainement pas, mais je vous
invite. Enfin, des imbéciles inondés.
C'était Lionel Jospin, donc, dans la Somme, en avril 2001. C'était entièrement faux, cette rumeur. Et pourtant, les gens y croyaient de bonne foi, à l'évidence. C'est ça qui est terrible, au fond, dans les rumeurs dont vous parlez dans ce livre, Pascal Froissart.
Ils avaient les deux pieds dans l'eau, donc, effectivement, ouais. C'est eux qui souffraient. C'est là où, également où je crois que le spécialiste de la rumeur que je suis devenu ne peut... Je veux dire, mes théories n'expliquent pas la souffrance des gens, donc je ne peux être que compatissant avec ce cri de souffrance. En revanche, effectivement, c'est le métier maintenant de politicien qui est un métier difficile, et d'aller au-devant de ces souffrances-là est une affaire extrêmement compliquée, et pour le coup, rumeur ou pas, il y avait là quelque chose, enfin, il y avait vraiment un combat politique derrière également. Je fais référence au fait que les gouvernements régionaux étaient de droite et que le gouvernement national était de gauche, ce qui explique peut-être aussi que cette rumeur-là est très 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 bien circulée en région.
Les rumeurs et d'autres, puisque apparemment, à vous entendre, ça durera longtemps. Merci Pascal Froissart. La rumeur, ou plutôt l'horloge du studio, me dit qu'il est bientôt 14h30. Le temps de recommander donc la lecture de votre livre, La rumeur, histoire et fantasme, édité chez Belin. Vous avez pu entendre un extrait du film Le Hussard sur le toit de Jean-Paul Rapneau, disponible en cassette vidéo. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. La technique, Aurélia de la Tuilerie et Christian Buton, documentation et archivina, Virginie Bloch-Lenné, Claire Tesser et Sandra Escamez, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Éloi Royer.
Une émission de Patrice Gélinet.